Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici un sujet d'Audrey Scavinet.
Si je vous dis Tristan Lecomte, vous me répondez Alter Eco, l'une des principales marques françaises de commerce équitable. Et si je vous disais pas seulement ? En effet, la créativité positive au service des hommes et de l'environnement, quand on la cultivons, c'est pour la vie. Alors aujourd'hui, Tristan Lecomte nous parle de Pure Projet, une petite merveille qu'il a créée en 2008 et dont la philosophie est, je cite, « accepter ce qui est en reconnaissant tout de même que tout est possible ».
Donc Pure Projet, on est un collectif qui assistons les entreprises à régénérer les écosystèmes dont elles dépendent, donc principalement à travers la plantation d'arbres, le développement de modèles agroforestiers, pour planter des arbres dans les filières agricoles des entreprises et ainsi rééquilibrer leur développement économique avec la préservation de l'environnement. Et ce qui m'a motivé, c'est d'aider les entreprises à réconcilier leur besoin de se développer avec la nécessité urgente de préserver la planète.
Et c'est ce que vous appelez des projets d'insetting, c'est ça ?
Voilà, exactement. Offsetting, en fait, ça veut dire compensation carbone, mais ça a souvent lieu à l'extérieur des activités des entreprises. Et c'est souvent déconnecté des problématiques de l'entreprise, alors que nous, on développe ces projets agroforestiers au sein des propres filières des entreprises. Par exemple, Vittel, source de l'eau à Vittel, eh bien, nous plantons des arbres aux sources de Vittel pour dépolluer les sols, ou en tout cas régénérer l'écosystème et faire en sorte que l'eau soit pure. Nous le faisons de même pour Ben & Jerry's ou pour Nestlé, au sein des filières de café et de cacao, parce qu'à chaque fois, les arbres se nourrissent de la pollution, hein, ils captent du CO2, ils peuvent aussi capter des nitrates quand il y en a trop dans le sol, et ainsi ils régénèrent l'écosystème, ils apportent de multiples bénéfices, ils apportent des nutriments dans le sol, de l'azote, des minéraux qui vont puiser les racines au fond du sol et qu'ils viennent déposer sur le sol avec leurs feuilles.
D'accord, c'est très bien tout ça, et vous travaillez aussi avec des coopératives de petits producteurs ?
Alors, quasiment tous nos projets sont développés en partenariat avec des coopératives de petits producteurs agricoles. Ils ont en moyenne un hectare de surface cultivée. Et l'intérêt de planter des arbres, c'est que ça peut aussi multiplier leurs revenus parce qu'ils ne vendent pas que des produits agricoles, mais ils peuvent vendre aussi du bois, des fruits, des médecines quand ce sont des arbres médicinaux. Et puis, ils récupèrent de la matière organique qui va être très utile pour augmenter naturellement leur rendement agricole. Donc tout le monde est content.
Et qui sont vos clients, les plus gros clients ?
Donc nos clients principaux, c'est l'entreprise Clarins qui vend des cosmétiques. Donc on développe des jardins médicinaux et des plantes cosmétiques en Chine, au Pérou, au Brésil pour eux. Nous travaillons aussi donc beaucoup avec Vittel. On a planté 1 million d'arbres avec eux à la fois dans des zones où l'eau est un élément fondamental, comme en Amazonie, mais aussi à Vittel en France. Nous travaillons pour Accor, le groupe d'hôtels. Là, c'est intéressant, c'est un programme qui a permis la réduction très significative des consommations d'énergie et des consommations d'eau à travers l'encouragement des clients à réutiliser leurs serviettes et à ne pas la laver tous les jours. Avec ce programme, Accor a pu économiser près de 7 millions d'euros et a réinvesti la moitié pour planter 3 millions d'arbres.
Wow.
Donc ça montre qu'on peut aussi, quand on travaille dans l'environnement, accompagner des régions et donc des réductions de coûts, et puis faire plus avec moins et utiliser l'argent bien plus intelligemment qu'en dépensant inutilement à travers des consommations énergétiques qui sont inutiles.
D'accord, ok. Et j'ai une petite question en ce qui concerne l'éthique des entreprises avec qui vous choisissez de travailler. Par exemple, Vittel, c'est vraiment privatiser l'eau, je veux dire, c'est de rendre un bien commun, un produit de luxe. Et ça vous pose pas de problème particulier dans l'idée ?
C'est une question en effet intéressante et c'est un débat public. Je pense qu'en France, il n'y a pas ce problème. Enfin, on a à notre disposition de l'eau à travers l'eau du robinet. Après, pour certaines personnes, pour des personnes âgées ou pour des personnes malades ou pour des enfants, pour les bébés par exemple, pour préparer les biberons, on utilise souvent de l'eau minérale. Je pense qu'il y a différentes utilités au niveau de l'eau et que dans certains cas, donc, on peut s'en procurer de manière privée dans une bouteille, mais on peut aussi s'en procurer au niveau du robinet. Dans les pays en développement, dans beaucoup de pays, en fait, on est obligé de boire de l'eau minérale, enfin, en tout cas de l'eau en bouteille, puisque l'eau n'est pas consommable au robinet. Donc c'est en effet un débat citoyen qui doit avoir lieu, mais je n'ai pas une réponse si claire que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
J'avoue que ça me pose un problème que des entreprises comme ça se désignent propriétaires d'un bien commun. Je trouve que dans l'idée, c'est pas quelque chose de raisonnable ni d'éthique. Après, le fait que, effectivement, dans certains pays, il y a des endroits où l'eau n'est pas potable directement au griffon, enfin, je veux dire au robinet, c'est sûr que c'est un autre problème. Cependant, peut-être que développer des infrastructures liées à l'eau dans ces pays-là, au lieu de leur vendre de la vitelle en bouteille, pour moi, ça me paraît un peu plus judicieux. Mais c'est mon avis personnel.
Mais c'est une autre entreprise, c'est Veolia dans ce cas-là qui fait ça. Et moi j'habite en Thaïlande par exemple, et bien en Thaïlande on est obligé de boire de l'eau en bouteille. Et pour mon bébé de 3 ans, il n'est pas question que je lui donne de l'eau du robinet. Donc je suis bien content de trouver Nestlé Pure Life pour lui, qui est un produit sûr, dans qui j'ai confiance. Parce que s'il boit de l'eau du robinet, il va être malade immédiatement.
Oui, donc c'est une question qui est discutable.
Voilà, moi j'ai plus un problème par exemple avec, enfin plus un problème, j'ai pas de problème, mais disons que ce qui me pose plus question par exemple, c'est les soft drinks ou l'alcool. Puisque là, c'est des produits qui sont totalement inutiles, qui sont mauvais pour la santé, qui ont un bilan carbone catastrophique, dont on n'a pas besoin. Et donc, on veut, par exemple, interdire l'eau en bouteille,
Qui utilise beaucoup d'eau en plus.
qui utilise beaucoup d'eau, en plus que l'eau en minéral, qui n'est pas utile, donc qui pose un problème de santé publique, l'obésité, etc. Enfin, je comprends, hein, le débat sur l'eau, mais avant de les pointer autant du doigt, je pense qu'on a beaucoup à faire déjà avec toutes les autres boissons qui servent absolument à rien et qui même ont plutôt un impact négatif. Avant de faire le procès de l'eau en bouteille, moi j'aimerais engager plus un débat public sur l'alcool en bouteille, parce que là il y a beaucoup de dommages collatéraux, c'est un empreinte carbone 100 à 200 fois plus élevée, c'est un problème de santé publique, c'est inutile, enfin si c'est festif, mais voilà, alors que quelqu'un qui a envie d'avoir une bonne eau minérale et du coup qui s'achète une bouteille d'eau plutôt que de l'eau du robinet qui n'a pas bon goût ou même qui peut être dangereuse. Et avec un bilan carbone en plus qui est relativement faible, parce qu'un litre d'eau en bouteille, c'est 200 grammes d'équivalent CO2. Donc c'est comme du pain ou des fruits et légumes de saison locaux. Donc certes, il y en a qui pensent que c'est inutile, une pollution inutile, et que c'est en effet beaucoup plus polluant que l'eau du robinet, mais c'est complètement marginal dans la trace carbone journalière de quelqu'un. Un steak de bœuf, donc 1 kg de steak de bœuf, c'est 40 kg d'équivalent CO2. Donc c'est.
À qui le dites-vous, je suis végane. Ça me scandalise, ce genre de choses.
D'accord. Vous voyez, c'est complexe en fait. Hein. Donc moi, j'aime bien la bonne eau. Pour ma famille, j'ai envie d'une eau sûre. C'est pas mon point principal d'achoppement, l'eau en bouteille. Par contre, la viande, qui est la première cause de déforestation dans le monde, ça me pose plus de préoccupations.
Oui, d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez monter des projets qui pourraient aider certaines zones qui ont été complètement déforestées pour pouvoir y installer ou du bétail ou des aliments à faire pousser pour nourrir le bétail, pour un petit peu essayer d'encadrer cette pollution et de la réduire?
Oui, on développe ce qu'on appelle des modèles sylvopastoraux, c'est-à-dire la combinaison de l'élevage avec la plantation d'arbres. On a justement planté beaucoup avec Vittel. C'était auparavant des champs de coca pour la cocaïne. Donc ils avaient totalement déforesté pour planter la coca. Et maintenant, il y a du cacao, du café et des essences forestières. Donc un écosystème régénéré, des agriculteurs qui arrivent à bien vivre grâce à cela. Et donc, c'est la preuve qu'on peut passer d'un système des plus sombres à un des systèmes des plus efficaces, à la fois écologiquement et économiquement.
Et est-ce que vous apprenez les techniques d'agroforesterie directement aux petits producteurs ou c'est vraiment un échange mutuel?
En fait, l'agroforesterie, c'est la manière dont on aurait toujours dû continuer de produire. On n'aurait jamais dû couper les arbres, même en Europe, et on y revient maintenant parce qu'on comprend que les arbres, ils ont de multiples fonctions, une multiple utilité. Donc, c'est toujours un échange entre le savoir traditionnel des petits producteurs et puis nos techniques agroforestières un peu plus avancées. Mais c'est toujours un échange, un projet de développement.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment peut-être le public peut-il vous aider ou aider les petits producteurs?
Le public peut, s'il le souhaite, acheter des arbres sur notre site, sur pureprojet.com. Et sinon, il peut agir de différentes manières. Il y a plein de manières de privilégier, par exemple, des produits bio, des produits de saison, réduire sa consommation de viande pour réduire la pression sur la forêt. Planter des arbres, c'est assez facile. Surtout quand on voit des espaces de libre, disperser des graines, conserver des graines, aider toutes les associations qui travaillent dans ce domaine. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. On peut se renseigner sur Internet, que ce soit à travers notre organisation ou beaucoup d'autres.
À ce jour, Pure Projet a permis de préserver 317 000 hectares de forêt et planter des millions d'arbres. Si vous aussi vous voulez être acteur de Pure Projet ou tout simplement vous désirez avoir plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.pureprojet.com.
C'était un sujet réalisé par Audrey Scavinet.